Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, Traité Ktuvot, page 58, Daf Nun Het. Bonne écoute et bon limoud.
Higio, l'alakha est que la vente n'est pas annulée parce qu'en général les esclaves sont de toute façon des voleurs, il n'y a rien de nouveau. Mai Ika, qu'est-ce qu'il peut avoir l'estime Zouyam, que ce soit un brigand armé donc un brigand dangereux au Murtav le Malchut, ou bien un esclave qui a été condamné à mort par le roi, Hanu Kalaitlu. Ces cas font du bruit. En général, on le sait, si cette personne a acheté cet esclave, apparemment, elle a été d'accord de l'accepter tel quel. Donc finalement, il n'y a aucune manière d'annuler la vente, que soit annuler la vente d'un esclave, par le fait qu'on découvre une infirmité chez lui. Pourquoi donc il pourra consommer la Trouma dès qu'il a été vendu? La Gemara demande, Mirde Ben Lemar ou Ben Lemar Loachla, puisque de toute façon, soit selon Oula, soit selon Rav Shmuel Bar Rabbi Yehuda, elle ne consomme pas la Trouma en tant que fiancée, donc soit de peur qu'elle nourrisse les membres de sa famille, soit parce qu'on découvre une infirmité. Mai Benayou, quelle différence y a-t-il entre eux? Qu'est-ce qui ressort de cette discussion? La Gemara répond, Ika Benayou, on trouve quand même, il ressort une différence. Dans le cas de Kibel, dans le cas où le fiancé a accepté sur lui toutes les infirmités qu'elle pourrait avoir, à ce moment-là, dès qu'elle se fiance, selon Rav Shmuel Bar Rav Yehuda, elle pourrait consommer la Trouma, parce qu'il n'y a pas à craindre qu'une infirmité vienne annuler ce mariage, alors que selon Oula, qui dit que la raison pour laquelle elle ne peut pas consommer la Trouma, c'est de peur qu'elle nourrisse les membres de sa famille, là, elle n'aura pas le droit de consommer la Trouma. Autre cas où il pourrait y avoir une différence, Massar, si le père a transmis la fiancée aux émissaires du mari, mais il ne l'a pas vue, ou bien Halar, ou bien les émissaires du père sont partis en même temps que l'émissaire du mari pour le mariage. Donc dans les deux cas, le mari ne l'a pas encore vue. Selon Oula, qui dit que la raison pour laquelle elle ne peut pas consommer la Trouma, c'est de peur qu'elle nourrisse les membres de sa famille, une fois qu'elle a quitté la maison, elle peut déjà consommer la Trouma. Alors que selon Rav Shmuel Rav Yehuda, qui dit que la raison pour laquelle elle ne peut pas consommer la Trouma, c'est de peur qu'on découvre chez elle une infirmité qui annule le mariage, tant qu'on n'a pas procédé à la cérémonie du mariage, il y a à craindre qu'une infirmité annule ce mariage. Elle ne pourra donc pas consommer la Trouma. Nous avons fini ici le shiur de Ktuvot Daf Nun Zayin. Nous commençons le shiur de Ktuvot Daf Nun Chet à la quatrième ligne du haut de la page, aux deux points. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Rabbi Tarfon Omer Notnim La Hakol Trouma. Donc dans la Mishnah, il y a une discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, dans le cas où arrive le moment prévu pour le mariage et ils ne se sont pas mariés. Son mari est tenu de la nourrir. S'il est Cohen, il peut même lui donner la Trouma. La discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva est, à savoir, si quand on lui donne la Trouma, est-ce que le fiancé peut suffire de lui donner uniquement de la Trouma, donc c'est l'avis de Rabbi Tarfon, et si elle devient impure, par exemple à cause d'une période de menstruation, elle la vendra pour acheter de la nourriture ordinaire. Selon Rabbi Akiva, dès le départ, il devra donner à moitié de la nourriture ordinaire et l'autre moitié, il pourra donner de la Trouma. Amar Abaye. Abaye dit là-dessus, Machloket bebat Kohen le Kohen. La discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva parle d'un cas où il s'agit d'une fille de Kohen qui s'est mariée avec un Kohen, puisqu'elle connaît déjà les lois de la consommation de la Trouma. Elle a l'habitude de vendre de la Trouma quand elle devient impure. On pourra donc lui donner que de la Trouma selon l'avis de Rabbi Tarfon. Aval bebat Israël le Kohen. Par contre, quand il s'agit d'une fille d'Israël qui se marie avec un Kohen, donc pour lui, pour elle, ces lois de Trouma sont encore neuves, on ne pourra pas se permettre de lui donner que de la Trouma. Il faudra seulement, d'ivré à col, selon tout le monde, même selon Rabbi Tarfon, Mertsa Choulin ou Mertsa Trouma, il faudra lui donner à moitié de la nourriture ordinaire et l'autre moitié pourra être de la Trouma. Ben Amar Abaye, et Abaye dit en plus, Machloket Barusa, la discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Kiva parle d'une fiancée, donc d'une fille de Cohen fiancée. Parce que son père pourra vendre pour elle la Trouma au cas où elle devient impure. Aval Ben Soua, par contre, quand il s'agit d'un cas d'une femme mariée qui est nourrie par un tiers, par exemple, en l'absence du mari, donc il lui accorde une pension alimentaire par une tierce personne, Divrei Hakol, Mertsa Choulin ou Mertsa Trouma, tout le monde sera d'accord, même Rabbi Tarfon, qu'on ne pourra pas lui donner que de la Trouma, on lui donnera donc à moitié de la nourriture ordinaire, et l'autre moitié, on pourra lui donner de la Trouma. Et cela parce qu'il ne sied pas à une femme de se promener dans les rues pour vendre de la Trouma. Tanya Lamiyahi, il a été enseigné ainsi dans une braïta. Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit, Notnim La Hakol Trouma, le fiancé peut se permettre de lui donner uniquement de la Trouma. Rabbi Akiva Omer, Mertsa Choulin ou Mertsa Trouma. Selon Rabbi Akiva, il devra donner à moitié de la nourriture ordinaire et l'autre moitié de la Trouma. Bamedvarim Amorim, quand ces choses sont dites Bebat Kohen le Kohen, quand il s'agit de la fille d'un Kohen qui s'est mariée avec un Kohen. Elle est donc familière avec les lois de la Touma. Aval Bat Israël Kohen, par contre, quand il s'agit d'une fille d'Israël qui s'est mariée avec un Kohen, qui se marie maintenant avec un Kohen, elle n'est donc pas familière avec les lois de la Touma. Divrei Hakol, selon tous les avis, même selon l'avis de Rabbi Tarfon, Mertsa Khulin ou Mertsa Touma, il ne pourra que lui donner à moitié de la nourriture ordinaire, et l'autre moitié pourra lui donner de la Touma. Bam et Varim Amourim, quand ces choses sont dites Baroussa, quand on parle d'une fiancée qui peut céder des membres de sa famille pour vendre de la Touma au cas où elle devient impure. Aval Binsua, par contre, si elle est mariée, elle est nourrie par son mari, par l'intermédiaire d'une tierce personne, Divrei Hakol, selon tous les avis, donc même selon l'avis de Rabbi Tarfon, Mertsa Khulin ou Mertsa Touma, le mari ne pourra que lui donner à moitié de la nourriture ordinaire, et l'autre moitié, il pourra se permettre de lui donner la Touma. Et cela, comme nous l'avons expliqué, parce qu'il ne sait pas à une femme de se promener dans les rues. Rabbi Yehuda ben Betera Omer, notnim la shtei adot shel Touma v'achat shel Khulin. Il lui donnera deux tiers de la Touma et un tiers de nourriture ordinaire. Rabbi Yehuda Omer, noten la hakol Touma, il peut lui donner uniquement de la Touma. Vihi mocheret velokachat bedamim Khulin. Et elle peut les vendre quand elle devient pure pour acheter avec le produit de la vente de la nourriture ordinaire. Rabbi Yehuda précise donc qu'il faudra lui donner assez de Touma pour pouvoir acheter de la nourriture ordinaire. En effet, la Touma qui ne peut être achetée par les Kohanim coûte moins cher, donc il faut plus de Touma pour pouvoir acheter avec le produit de la vente de la nourriture ordinaire. C'était donc cela l'avis de Rabbi Yehuda, alors que Rabbi Tarfon ne précisait pas qu'il fallait lui donner plus de Touma pour pouvoir acheter de la nourriture ordinaire. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, kol makom shuzkera Touma, partout où on parle de donner de la Touma à une femme, notnim la kiflaim bechulin, on lui donne le double de ce qui est nécessaire pour se nourrir, si par exemple elle mangeait de la nourriture ordinaire. Maï ben Ayou, quelle est la différence entre Rabban Shimon Gamliel et Rabbi Yehuda, puisque finalement selon les deux, elle doit s'efforcer de vendre la Touma pour acheter du Khulin. Ma réponse, Ika ben Ayou tircha. La différence entre Rabbi Yehuda et Rabban Shimon Gamliel est l'effort qu'elle doit mettre pour vendre cette Touma pour acheter en contrepartie de la nourriture ordinaire. C'est-à-dire, selon Rabbi Yehuda, on lui donnera uniquement ce qui est suffisant de Touma pour pouvoir la vendre et acheter du Khulin, de la nourriture ordinaire, alors que selon Rabban Shimon Gamliel, on lui donnera beaucoup plus de Touma pour qu'elle puisse la vendre sans effort, même moins cher, et acheter largement de la nourriture ordinaire. Donc finalement, pour les avis qui disent que le fiancé peut lui accorder de la Touma, nous avons trois avis. L'avis de Rabbi Tarfon, qui dit qu'il pourra lui donner de la Touma, et elle perdra donc sur deux plans si elle devient impure. Premièrement, elle perdra en quantité, parce que la Touma qui se vend moins cher lui donnera moins de nourriture ordinaire. Et en plus, elle devra s'efforcer de la vendre. Selon Rabbi Yehuda, elle aura suffisamment de Touma pour pouvoir acheter de la nourriture ordinaire, mais quand même elle aura l'effort de la vendre pour tirer un bon prix. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, elle aura suffisamment de Touma pour vendre celle-ci sans effort pour acheter de la nourriture ordinaire. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit Hayabam enoma achil bitouma. Le Yabam, c'est celui dont le frère fiancé est mort sans laisser d'enfant. Sa femme donc est candidate au Yiboum. Le Yabam donc, qui doit faire le hiboum, ne pourra pas donner à consommer de la Touma, même si le moment prévu pour le mariage est arrivé. La Gemara demande, Maïtama, pourquoi? La Gemara répond, Kinyan Kaspo Amarachmana. Nous avons dit déjà plus haut la raison pour laquelle une fiancée peut consommer de la Touma, parce que le Pasouk, dans le paragraphe concernant la loi de la Touma, dit que si un Kohen achète une personne, il s'agit d'un esclave, celui-ci pourra consommer la Touma. La Gemara avait dit de là, puisque le Pasouk emploie le terme de Kinyan Kaspo, l'achat de l'acquisition par son argent. Nous avons déduit aussi qu'une femme pouvait aussi consommer la Touma, même s'il n'avait reçu que les Kiddushin. Alors, puisque la Torah parle de l'achat de son argent, Behai Kinyan Dachivu. Là, dans notre cas du Abam, ce n'est pas son achat, mais c'est l'achat de son frère. Puisque une fois que son mari est mort, ou son fiancé est mort, elle ne lui appartient plus, elle n'appartient plus à un Kohen, elle ne peut plus consommer la Touma. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Asta shisha chodashim bifne abal » Si elle a attendu 6 mois en présence de son mari, de son fiancé, et 6 mois en présence du Yabam, elle ne peut quand même pas consommer la Touma. La Mishnah ajoute d'autres cas, même si elle a fait tous les 12 mois devant son mari à part un jour, ou bien si elle a fait 12 mois devant le Yabam, à part un jour qui était devant son mari, elle ne pourra pas consommer la Touma. La Gemara demande là-dessus, Hashta bifne abal amartlo, si déjà dans le cas où elle a attendu 12 mois moins un jour en présence de son mari, quand même la Mishnah conclut en disant qu'elle ne pourra pas consommer la Touma, bifne yhayabam mibaya, si elle a fait tous les 12 mois devant en présence du Yabam, donc après la mort de son fiancé, est-ce que la Mishnah a besoin de nous enseigner qu'elle ne pourra pas consommer la Touma? La Gemara répond, effectivement, il n'y a pas de chidouche là-dedans. Mais des fois, la Mishnah s'exprime en employant une forme de zu ve'en tsarich lomar zu katane. C'est-à-dire, il se peut des fois que la Mishnah enseigne un premier cas, et en fait, ce que la Mishnah veut dire par la suite, que cela va sans dire que les cas suivants ont aussi la même halakha s'applique. Là, comme le Shitam Kubetet l'explique, en fait, tous les trois cas de cette Mishnah vont dans ce sens. Puisque déjà, dès le départ, la Mishnah nous a dit que le Yabam ne peut pas faire consommer la Touma. Et cela, même si elle consommait la Touma du vivant de son fiancé, par exemple si les 12 mois étaient déjà passés, à plus forte raison que les cas suivants de la Mishnah. Donc cela va sans dire que les cas suivants de la Mishnah, là, même Halakha s'appliquera, elle ne pourra pas consommer la Touma. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Zou Mishnah Rishona, ceci est l'enseignement de la première Mishnah, de la première génération. » Qui disait donc que dès qu'arrive le moment prévu pour le mariage, par exemple après les 12 mois, après que le fiancé ait réclamé le mariage, elle pourra consommer la Touma. La suite de la Mishnah est que le tribunal suprême de la génération qui suit a décidé qu'elle ne pourra pas consommer la Touma jusqu'à ce qu'ait lieu la cérémonie de la Choupa. La Gemara demande, Maïtama, pourquoi elle ne peut pas consommer la Touma jusqu'à ce qu'ait lieu la cérémonie de la Choupa? La Gemara répond, Amar Ula, Vitema Rab Shmuel Bar Yehuda, Mishum Simpon. On craint qu'on découvre chez cette fiancée une infirmité qui annule le mariage par la suite. Donc il s'avère par la suite qu'elle ne pouvait pas consommer la Touma. C'est pourquoi, donc jusqu'à la cérémonie du mariage, elle ne pourra pas consommer la Touma. Alors la Gemara demande, Bish Lama Le Ula, on comprend bien encore l'avis de Ula. Kamaita, le premier avis de la Mishnah, qui disait qu'elle ne pouvait pas consommer la Touma jusqu'à ce qu'arrive le moment prévu pour le mariage, cela, chez Maïm Zegula Kos Bevetavia, de peur qu'on lui serve un verre de vin, par exemple, dans la maison de son père, il s'agit de la Touma, et qu'elle en donne à ses frères ou à ses sœurs. En d'autres termes, on ne peut pas lui donner de la Touma tant qu'elle est dans la maison de son père, de peur qu'elle en nourrisse les membres de sa famille. Mais dès qu'arrive le moment prévu pour le mariage, la Gemara avait expliqué que le mari est tenu de la nourrir, et donc il l'a fait sortir de la maison de son père, il n'y a plus rien à craindre. Par contre, Ubatraita, mais le dernier avis de la Mishnah, qui disait qu'elle ne pouvait pas consommer la Touma jusqu'à ce qu'ait lieu la cérémonie du mariage, Mishum Simpon, c'est que le dernier avis de la Mishnah a pris en ligne de compte un nouvel élément, c'est de craindre qu'on découvre chez elle une infirmité qui annule le mariage, et par conséquent, elle ne peut pas consommer de la Touma jusqu'à ce qu'ait lieu la cérémonie du mariage. Nous tournons la page à Daf Nunchet Amud Bet. Et là, les Rav Shmuel.
Vous êtes en plein cours de Gemara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
La cérémonie du mariage, nous tournons la page à Daf Nunchet Amud Bet. Et là, les Rav Shmuel Bar Yehuda, par contre, selon l'avis de Rav Shmuel Bar Yehuda, qui a été cité plus haut dans le Daf précédent, Kamaita Mishum Simpon, le premier avis de la Mishnah, qui disait qu'elle ne peut pas consommer la Touma jusqu'à ce que vienne, ce qu'arrive le moment prévu pour le mariage, c'était de peur qu'on découvre une infirmité qui annule le mariage. Ou Batraita, et le deuxième avis de la Mishnah qui dit qu'elle ne peut pas consommer la Touma jusqu'à ce qu'ait lieu la cérémonie du mariage, Mishum Simpon, c'est aussi de peur qu'on découvre une infirmité qui annule le mariage. Maï Benayou, quelle différence a-t-il entre eux? En quoi discute-t-il? Pourquoi celui-ci permet de consommer la Touma dès qu'arrive le moment prévu pour le mariage, et l'autre l'interdit jusqu'à la cérémonie du mariage? La Gemara répond, Ika Benayou, la différence entre le point de discussion entre eux est le suivant. Dikatrout, c'est à propos de la vérification par un intermédiaire. C'est-à-dire, dès qu'arrive le moment prévu pour le mariage, où le mari est, ou le fiancé est censé la nourrir, il procède à une vérification par un intermédiaire, c'est-à-dire par des membres de sa famille, comme ses sœurs ou autres. Par exemple, en l'emmenant à la piscine. Mar Savar, Dikatrout, Shemabdika, le premier avis de la Mishnah pensait que la vérification par un intermédiaire suffit. Après cela, il n'y a plus à craindre qu'on découvre une infirmité qui annule le mariage. C'est pourquoi, dès qu'arrive le moment prévu pour le mariage, elle pourra consommer la Touma. Omar Savar est le deuxième avis de la Mishnah qui pense qu'elle ne peut pas consommer la Touma jusqu'à ce qu'ait lieu la cérémonie du mariage, parce qu'il pense, Bdikatrout, Lashmabdika, la vérification par un intermédiaire n'est pas suffisante, on risque toujours de découvrir une infirmité qui annule le mariage, et c'est pourquoi donc elle ne peut pas consommer la Touma jusqu'à ce qu'ait lieu la cérémonie du mariage. Nouvelle Mishnah. Hamakdish ma'ase yede ishto. Celui qui rend egdesh, qui sanctifie le produit de sa femme, ce qu'elle gagne. La Mishnah dit, harezu v'osa v'ochelet. Ce egdesh ne prendra pas effet. Elle pourra donc travailler et gagner de l'argent et manger ce qu'elle gagne. Par contre, elle ne le transmettra pas à son mari. La Gemara expliquera. Hamota. Maintenant, autre cas. Celui qui sanctifie le surplus de ce qu'elle gagne. C'est-à-dire, la Mishnah plus loin dans ce perek expliquera combien, quelle est la somme qu'elle doit s'efforcer de gagner chaque semaine. En tout cas, donc, s'il sanctifie le surplus de ce qu'elle gagne, en échange de ce surplus, en général, le mari lui accorde une somme d'ama'a, c'est une petite pièce d'argent pour pouvoir ses besoins de cosmétiques. En tout cas, donc, quand il sanctifie ce surplus, Rabbi Meir Omer Hekdesh, ce Hekdesh aura pris effet. Rabbi Yochanan Asandlar Omer Choulin, ce Hekdesh n'aura pas pris effet, et donc cet argent qu'elle a gagné reste de l'argent ordinaire. La Gemara aussi expliquera cela. Alors la Gemara dit, Amar Avuna Amarav, Yechola Isha Lomar Lebala, une femme peut dire à son mari, Eni Nizonet Veeni Osa, je ne veux pas être nourri par toi, et je ne travaillerai pas pour toi, c'est-à-dire, je ne te donnerai pas ce que je gagne. Je subviendrai moi-même à mes propres besoins. D'ailleurs, Rashi plus loin explique, plus loin d'Af Pegimel Amoud Alef, que quand elle le dit, c'est surtout dans un cas où, par exemple, elle a un travail qui rapporte beaucoup, même beaucoup plus que ce qu'elle a besoin pour se nourrir. Alors, ici, une femme a le droit de dire ça, donc comme le dit Ravuna Amarav, tout ce qu'elle gagne restera chez elle, elle n'aura rien à donner à son mari. Kassavar, Ravuna pense, quitte à qu'il nous rabanan maisonné Icar, les rabanan, en fait, les chachamim ont institué, en fait, que le fait que le mari nourrisse sa femme était l'essentiel de l'institution. Umaase adeha mishum eva. Et en fait, les chachamim ont institué en échange qu'elle lui transmette ce qu'elle gagne, c'est juste pour ne pas causer des disputes inutiles. Vechi amra eni nizonet veniosa. Alors, puisque finalement cette institution était pour son bien, si elle dit je ne veux pas être nourri par toi et je ne te donnerai pas ce que je gagne, harushut biada, elle a le droit de le faire. La Gemara demande, mais t'y vais. Voici qu'on a vu le contraire dans une braïta plus haut d'Af Menzaïn Amoudbet, Tiknou Mezonot, Tachat Maseadea. Les chachamim ont institué que le mari nourrisse sa femme en échange de ce qu'ils ont institué, qu'elle lui donne ce qu'elle gagne. En fait, quand cette braïta tient ce langage donc, où les chachamim ont institué de la nourrir en échange de son travail, la braïta veut dire que les chachamim ont institué que le mari nourrisse sa femme en échange de son travail qu'elle doit de toute façon lui fournir. Si c'est ainsi, la femme n'a aucune possibilité de dire qu'elle ne veut pas fournir de travail et elle ne veut pas être nourrie. La Gemara répond, Emma, il faudra lire différemment la Braïta. Tiknu ma'ase adeha tachat mezonot. Les chachamim ont institué que la femme transmette à son mari ce qu'elle gagne en échange de sa nourriture. Cela veut dire donc que l'institution que la femme transmette ce qu'elle gagne à son mari était une institution secondaire. Et en fait, l'essentiel de l'institution des chachamim était en fait pour son bien qu'elle soit nourrie par son mari. Si donc elle veut ne pas être nourrie par son mari et garder ce qu'elle gagne pour elle, elle pourra le faire. La Gemara demande, Lema Mesayale, n'est-ce pas que nous pouvons trouver un appui sur la vie de Ravuna de notre Mishnah? Notre Mishnah dit donc, Hamakdish Maaseye Deishto, celui qui rend Ekdesh, celui qui sanctifie le travail de sa femme, ce que sa femme gagne, Hare Hi Osa Vochelet. Elle travaillera et elle consommera, elle se nourrira de ce qu'elle gagne. Mailav Benizonet, n'est-ce pas qu'il s'agit d'un cas où le mari est prêt à nourrir sa femme, et forcément donc la raison pour laquelle ce Hekdesh ne prend pas effet, c'est parce que la femme a la possibilité de dire qu'elle ne veut pas être nourrie par son mari et ne veut pas lui transmettre ce qu'elle gagne. Donc là, ce que la Mishnah nous enseigne, que si le mari rend Hekdesh l'argent qu'elle gagne, la femme, on dira à la femme donc de dire je ne veux pas être nourrie par toi et je ne veux pas te transmettre ce que je gagne, et à ce moment-là, elle travaillera, elle se nourrira de ce qu'elle gagne. La Gemara répond, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ainsi qu'ils vont comprendre la Mishnah, mais la Mishnah parle d'un cas, Bechena Nizonet, d'un cas où le mari n'a pas de quoi la nourrir. Dans ce cas, donc, ce que la Mishnah nous enseignerait, c'est que dans le cas où le mari ne la nourrit pas, il n'a aucun droit sur ce qu'elle gagne, donc il ne peut pas rendre Ekdesh ce que sa femme gagne, et elle travaillera, elle consommera, elle se nourrira de ce qu'elle gagne. La Gemara demande, Ibishena Nizonet, s'il s'agit d'un cas où le mari ne la nourrit pas, Maï le Memra, quel est le chidouche de la Mishnah? Afil ou le Manda Amar, même selon celui qui dit que Yachol Harav Lomar le Eved, qu'un maître peut dire à son esclave, Aseimi Veinizanach, travaille avec moi et je ne veux pas te nourrir. Tu iras mendier si tu dois te nourrir. Hanemile, quand ces choses sont dites, Bevet Knani, quand on parle d'un esclave non juif, de l'octave Beimar, à propos duquel le Passouk n'a pas dit Imar, il doit être en même temps que son maître, nous expliquons par la suite. Donc cet esclave n'a aucun droit. Son maître donc peut le forcer à travailler avec lui et il ne peut ne pas le nourrir. Aval Eved Ivri, par contre, à propos de l'esclave juif, il s'agit d'un esclave qui a été vendu à la suite d'un vol ou qui s'est vendu parce qu'il s'est appauvri. Dirtiv B, à propos duquel le Passouk dit dans Dvarim Tedvav, Imar, avec toi. En fait, ce Passouk dit, si au bout de 7 ans réglementaires, au bout desquels ce serviteur doit quitter son maître, il dit qu'il ne veut pas le quitter, quitte Ovlo Imar, parce qu'il se sent bien chez toi. De là, nous apprenons que le maître de l'esclave juif doit s'efforcer de le faire sentir chez lui, à tel point que la Gemara dans Kiddushim dit que si, par exemple, le maître n'a qu'un seul coussin, il devra le transmettre à cet esclave. Alors là, il est évident qu'il ne pourra pas lui dire « Travaille avec moi, je ne te nourrirai pas ». « Vekol sheken ishto » et à plus forte raison pour sa femme qui ne pourra pas lui dire « Travaille avec moi, travaille pour moi et je ne te nourrirai pas ». Donc il est évident que si le mari ne nourrit pas sa femme, qu'il n'aura pas de droit sur ce qu'elle travaille. Et il est évident aussi qu'il ne pourra pas rendre Ekdesh l'argent qu'elle gagne. Donc quel est le chidouche de la Mishnah? La Gemara répond « Sefa itztarichle ». Ce que la Mishnah a voulu, le chidouche de la Mishnah, était en fait le deuxième cas de la Mishnah. Le cas est « Motar », le surplus, c'est-à-dire si le mari rend Ekdesh le surplus, Rabbi Meir Omer Ekdesh, Rabbi Meir dit que ce Ekdesh aura pris effet, Rabbi Yochanan Sandlar Omer Choulin. Rabbi Yochanan discute et dit que ce Ekdesh n'a pas pris effet, cet argent donc reste de l'argent ordinaire. C'est-à-dire, il est vrai que il est évident que si le mari ne nourrit pas sa femme, qu'il n'aurait aucun droit sur ce qu'elle gagne, mais par rapport au surplus, en échange duquel le mari lui accorde une pièce d'ama'a pour ses besoins de cosmétiques, puisque ce n'est pas un besoin pressant, il est vrai qu'elle n'est pas obligée de transmettre ce surplus pour pouvoir elle-même acheter ce qu'elle a besoin, mais quand elle n'aura plus besoin de ce surplus, par exemple à sa mort, ce Ekdesh pourrait prendre effet. C'est justement ça le chidouche de la deuxième partie de la Mishnah, que bien que nous voyons dans le premier cas de la Mishnah que pour ce que la femme gagne, donc la somme initiale qu'elle doit gagner, là, si le mari ne la nourrit pas, selon tout le monde, le mari n'a aucun droit dessus, il ne pourra pas rendre cet argent avec Desh. Mais quant au surplus, là, nous voyons une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan à Sandlar, si à la mort de cette femme, ce Ekdesh prendra effet. Alors, la raison de cette discussion, c'est que selon Rabbi Meir, une personne peut rendre Ekdesh même quelque chose qui n'existe pas, alors que selon Rabbi Yochanan Basandlar, on ne peut pas rendre Ekdesh quelque chose qui n'existe pas. En la Gemara continue. Ou pliga de Resh Lakish. Et Ravuna est en désaccord avec Resh Lakish. Dama Resh Lakish, parce que Resh Lakish a parlé à propos de du deuxième cas de la Mishnah. Lotema Tamad Rabbi Meir ne dit pas que la raison pour laquelle Rabbi Meir dit que le Ekdesh du surplus prendra effet, Mishum de Kassavar Adam Akdish Javar Shalobal Olam, c'est parce qu'il pense qu'une personne peut rendre Ekdesh quelque chose qui n'existe pas. Donc contrairement à l'explication que nous avons donnée plus haut, et la Tama de Rabbi Meir, mais nous dirons que la raison de Rabbi Meir est Mitor Sheachol Ekofa Lemase Adea, puisqu'il peut la forcer à travailler et à lui transmettre ce qu'elle gagne. Naase Ke Omer La, nous considérons ces paroles, quand il a dit que le surplus de ce que tu gagnes, devient Ekdesh, comme s'il avait dit Yikdeshu Yadayich Leosem, que tes mains soient sanctifiées pour ceux qui les a créés. Donc, puisque ses mains deviennent kadosh, ce qu'elle produit aussi devient kadosh. Et cela pour Akadosh Baruch Hu qui les a créés. Donc, ce qu'elle gagne, le surplus de ce qu'elle gagne, deviendra Ekdesh. La Gemara demande, lo amarachi, voici qu'il ne s'est pas exprimé de cette manière. Il avait dit juste que le surplus devient Ekdesh. Cela est quelque chose qui n'existe pas. La Gemara répond, qui va déchaminer le Rabbi Meir, puisque nous avons appris par ailleurs que Rabbi Meir avait dit, son avis est donc de Amar, qu'il dit, en Adam motzi dvarav levatala, qu'une personne ne sort pas, ne profère pas des paroles en vain. Il s'agit de la Gemara de Erchin Dafé, où il s'agit de quelqu'un qui s'engage à payer la valeur d'une personne selon les critères fixés par la Torah, en employant le terme de Erer. Alors là-dessus, la Torah fixe la valeur de la personne selon des tranches d'âge. En dessous de l'âge de 1 mois, la Torah n'a pas fixé de prix. c'est-à-dire celui qui s'engage à payer la contre-valeur d'un bébé âgé de moins de un mois, selon le critère fixé par la Torah, il ne s'est engagé à rien. Rabbi Meir dit qu'il donnera sa valeur marchande. Et cela parce qu'une personne sait que la Torah n'a pas fixé de valeur pour un bébé de moins de un mois. Nous pouvons donc estimer qu'il a voulu s'engager à payer sa valeur marchande. Et cela parce que son avis est qu'une personne ne profère pas des paroles en vain. Alors dans notre cas aussi, puisque selon le Reish Lakish, Rabbi Meir pense qu'une personne ne peut pas rendre Ekdesh quelque chose qui n'existe pas, par conséquent, elle ne peut pas rendre Ekdesh le surplus de ce qu'elle gagne. Mais puisque l'avis de Rabbi Meir est qu'une personne ne profère pas des paroles en vain, nous estimons que ce qu'il a voulu dire, c'est de rendre Ekdesh les mains productrices de ce travail. Cela, il peut le faire. Rabbi Yochanan Asandlar, par contre, lui, discute avec Rabbi Meir et pense qu'une personne peut proférer des paroles en vain, c'est pourquoi donc ce Ekdesh ne prendra pas effet. En tout cas, puisque selon Reish Lakish, la raison pour laquelle Rabbi Meir dit qu'une personne peut rendre Ekdesh les mains de la femme, c'est parce qu'il peut la forcer à travailler pour lui. Et d'autre part, toujours selon l'interprétation de Reish Lakish, Rabbi Meir pense qu'une personne ne peut pas rendre Ekdesh quelque chose qui n'existe pas ou qui ne lui appartient pas non plus. Donc nous sommes obligés de considérer que les mains de cette femme lui appartiennent. Si nous pensions, donc comme Ravuna, qu'une femme a le droit de dire à son mari « Je ne veux pas être nourri par toi et je ne veux pas travailler pour toi », nous ne pourrions pas considérer que les mains de cette femme appartiennent à son mari. Par conséquent, donc, il ne pourrait même pas rendre Ekdesh ses mains. Donc finalement, nous voyons de là que Reish Lakish est en désaccord avec Ravuna. Selon Reish Lakish, la première partie de la Mishnah sera expliquée comme suit. Celui qui rend Ekdesh ce que sa femme produit, si son mari ne la nourrit pas du tout, elle pourra travailler et se nourrir de ce qu'elle gagne. Par contre, quant au surplus, donc il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Asandla, comme nous l'avons expliqué, et selon l'avis de Reish Lakish, ce surplus deviendra Ekdesh tout de suite du vivant de cette femme. Et cela parce que, comme le précise Tosfot, Reish Lakish interprétera cette partie de la Mishnah comme Rav Adaba Rava, qui dit que le surplus deviendra Ekdesh Kadosh du vivant de cette femme, parce qu'il s'agit d'un cas où le mari donne à cette femme la contre-valeur de ce surplus. Nous verrons par la suite, plus en détail, l'explication de Rav Adaba Rava. La Gemara demande, mais Savar Rabbi Meir et Nadam Akdish Javar Shelo Bala Olam, est-ce que Rabbi Meir pense qu'une personne ne peut pas rendre Ekdesh quelque chose qui n'est pas encore arrivé dans ce monde? Vatania, voici qu'il a été enseigné dans une braïta, Haomer Leisha, celui qui dira à une femme, Hareat Mekudeshet Li, que tu sois sanctifié à moi, que tu sois donc fiancé à moi, Lechar Shet Gayer, après que je me convertisse. Avant cela, avant qu'il se convertisse, ces kiddushin ne peuvent pas prendre effet. Ou l'achar shetit gairi, ou après que tu te convertisses. L'achar sheshtacher, si c'est un esclave qui parle après que je sois affranchi. L'achar sheshtacheri, ou bien après que toi tu sois affranchi. L'achar shehamut baler, ou après que ton mari meurt. Ou shetamut achoter, ou après que ta sœur meurt. Il s'agit d'un cas où cet homme est marié déjà avec la sœur de celle-ci. Il ne peut donc pas se marier avec elle, les kiddushin ne peuvent pas prendre effet. Ou l'achar shehlotzler yebamer. Ou après que ton Yabam fasse la cérémonie de la Khalitsa. Il s'agit donc d'une femme dont le mari est mort sans laisser d'enfant. Elle est candidate au Yiboum. Pour se libérer de cette obligation, elle peut avoir recours à la Khalitsa, qui consiste à déchausser son beau-frère devant le tribunal et en crachant devant lui en disant « Ainsi sera fait à celui qui ne veut pas reconstruire la maison de son frère. » Après cela, elle pourra se marier avec quiconque. En tout cas donc, celui qui dit que ces kiddushim prennent effet après que se passe la cérémonie de la Khalitsa, ce sont tous les cas cités ici. Il s'agit de cas où, au moment où les kiddushin sont transmis, ils ne peuvent pas prendre effet. Rabbi Meir Omer Mekudeshet. Rabbi Meir dit que ces kiddushin prendront effet quand ils pourront prendre effet. Donc nous voyons d'ici que, selon l'avis de Rabbi Meir, une personne peut acquérir quelque chose qui n'existe pas encore. La Gemara répond, effectivement, mais hahi in. De cette braïta, nous pouvons prouver que l'avis de Rabbi Meir est qu'une personne peut acquérir quelque chose qui n'existe pas, ou vendre quelque chose qui n'existe pas. Mais ha, par contre, de notre Mishnah, les Kalemashmamina, nous n'avons pas de preuve, parce qu'on peut l'interpréter comme le dit Reish Lakish. Néanmoins, après que nous savons que l'avis de Rabbi Meir est qu'une personne peut acquérir ou faire des actions concernant des choses qui n'existent pas, nous interpréterons donc la Mishnah différemment, comme nous l'avons expliqué plus haut, soit selon l'avis de Ravuna, soit selon l'avis qui discutera avec Ravuna. En tout cas, la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Asandlar est à savoir si une personne peut rendre Ekdesh quelque chose qui n'existe pas encore ou non. Nous avons fini ici le shiur de Ktuvot Daf Nun Tet. Nous commençons le shiur de Ktuvot Daf Nun Tet. Nous commençons Daf Nun Tet Amud Bet aux deux points vers le bas de la page. Nous avons
Récapitulons donc ce que nous avons vu dans le chiot précédent. Nous avons interprété la première partie de la Mishnah qui disait que celui qui rend Ekdesh ce que sa femme produit, celle-ci continuera à travailler et se nourrira de ce qu'elle gagne. Nous avons vu là-dessus deux interprétations essentielles. Celle de Ravuna, qui disait qu'une femme avait la possibilité de dire qu'elle ne veut pas être nourrie par son mari et elle ne veut pas lui transmettre ce qu'elle gagne. Dans ce cas, l'interprétation de la première partie de la Mishnah sera que quand son mari rend Ekdesh ce qu'elle gagne, elle dira « Je ne veux pas être nourrie par toi et je ne veux pas te transmettre ce que je gagne. » À ce moment-là, elle pourra travailler et se nourrir de ce qu'elle gagne. Selon celui qui discutait, qui disait que la femme n'avait pas la possibilité de le dire, il s'agit d'un cas où le mari ne la nourrit pas. C'est pourquoi, donc, il n'a aucun droit sur ce qu'elle gagne. Maintenant, nous interprétons la deuxième partie de la Mishnah. Donc, la Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Hamota, celui qui rend Ekdesh le surplus de ce que sa femme gagne, Rabbi Meir Omer Ekdesh, Rabbi Meir dit que ce Ekdesh prendra effet. » Nous avons expliqué aussi plus haut que la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yochanan Asandlav qui dit que ce Ekdesh ne prend pas effet est à savoir si une personne peut rendre Ekdesh quelque chose qui n'existe pas. Là-dessus, la Gemara demande « Emat Kadosh ». Finalement, alors, quand est-ce que ce Ekdesh prendra effet? Rav Shmuel Damre Tarvayu, Rav Shmuel disent tous les deux « Motar Lachar Mita Kadosh » que le surplus deviendra Ekdesh après la mort de cette femme. Avant cela, le Ekdesh ne peut pas prendre effet. La Gemara expliquera. Rabba Dabara Ava Amar, Motar Michaim Kadosh. Le surplus deviendra Ekdesh déjà du vivant de la femme. La Gemara demande. Have Barav Papa. Rav Papa s'est questionné là-dessus. Bemai, de quel cas s'agit-il? Il est ma Bemalela Mezonot ou Malela. S'il s'agit d'un cas où le mari la nourrit ou Malela Maakesev Letzorkea et lui fournit la somme d'un Ma'a d'argent pour les cosmétiques dont elle a besoin. Maïtama demande à Amar Lachamita Kadosh, quelle est la raison de celui qui pense que ce Ekdesh ne prendra effet qu'après la mort de cette femme, puisqu'elle est entièrement nourrie par son mari, et le Ekdesh ici ne concerne que le surplus, il n'y a pas lieu de lui dire, donc de dire qu'elle ne veut pas être nourrie par lui et qu'elle veut suffire à ses propres besoins. La seule chose qu'elle aurait pu faire, c'est de dire qu'elle ne veut pas accepter cette pièce d'argent et que le surplus lui revienne. Cela, elle ne peut pas le faire, puisque l'essentiel du travail revient déjà à son mari, comme le précise le Tosfot Rit. Donc finalement, ce Ekdesh devrait prendre effet tout de suite. Ve'ela, seulement nous dirons qu'il s'agit d'un cas, que she'en malela mezonot ve'lo malela, où le mari ne la nourrit pas, par exemple il n'a pas de quoi le faire, ve'lo malela ma'akesef letorkea, et aussi ne lui fournit pas une pièce de un ma'a d'argent pour les cosmétiques dont elle a besoin. Si c'est comme ça, ma'itama demande amar mechaim kadosh, quelle est la raison de celui qui dit que ce Ekdesh prendra effet même de son vivant, puisque finalement, le mari n'a aucun droit sur ce qu'elle gagne. En fait, la seule chose qu'on puisse concevoir, c'est que le surplus devienne Ekdesh après la mort de celle-ci. Et cela, parce que, nous l'avons expliqué déjà plus haut, qu'en fait, pour ce qui concerne ce qu'elle reçoit en échange de son surplus, c'est-à-dire cette pièce d'argent pour les cosmétiques dont elle a besoin, qui ne sont pas un besoin pressant, nous ne dirons pas que le mari n'a aucun droit sur ce qu'elle gagne, mais elle peut retenir son salaire pour couvrir ses besoins de cosmétiques. Une fois qu'elle n'a plus ses besoins parce qu'elle meurt, ce Ekdesh peut prendre effet, puisqu'elle est engagée vis-à-vis de son mari. Mais en tout cas, de son vivant, ce Ekdesh ne peut pas prendre effet, puisqu'il ne lui donne pas cette pièce d'argent pour couvrir ses besoins cosmétiques. Agma répond, le Olam Bema Alela Mezonot, toujours pourrais-je te dire qu'il s'agit d'un cas où il la nourrit, mais il ne lui donne pas cette pièce d'argent, le tzorkeha, pour les cosmétiques dont elle a besoin. Rav Shmuel, c'est vrai, Rav Shmuel pense, Tiknou, nous passons à Daf, Nuntet Amud Aleph, Mezonot Tachatma.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Ayomi, quotidiennement en vidéo.